Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi. Midi, 14h sur RMC et RMC Story. 14h puisqu'ensuite, évidemment, le Tour de France sera avec nous, Intégral Tour sur RMC. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Pierre Rondeau, économiste du sport, est là également.
Salut Rémi, salut à toutes et à tous.
Daniel Riolo, journaliste RMC.
Bonjour tout le monde.
Ça va Daniel?
Joie de vivre.
Bon, joie de vivre. Heureux de la victoire hier du Tour de France,
ne vous inquiétez pas, ça va démarrer dans quelques
minutes. Mais je sais, c'est comme l'équipe de France. Hein. Au bout d'un moment, ça finit toujours par taper et faire marquer. Et puis Amélie Rozic, journaliste RMC.
Salut Rémi, Amélie. Salut à tous.
Allez, dans un instant, tout sauf Bardella à Matignon. Apparemment, c'est la nouvelle stratégie employée, en tout cas mise en avant par Emmanuel Macron. Est-ce vraiment responsable? On risque peut-être d'avoir une majorité relative, une assemblée peut-être bloquée. En tout cas, vous nous appelez au 32-16 à 12h30. Candidat sous curatelle, oui, il y en a un, dérapage en série. Faut-il s'attendre pour la future Assemblée nationale? Et puis à 13h, il paraît que les trains ne font pas le plein en ce moment pour cet été. Il y a beaucoup de places disponibles. Prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle détester le train? Encore une fois, vous nous appelez au 32-16 et puis à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et évidemment, il est question d'euros et on joue, Paul.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister au quart de finale de l'équipe de France face au Portugal. Ça sera vendredi à 21h et on vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Hambourg, bien évidemment, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC sur place avant la rencontre et bien sûr, vos deux places pour France-Portugal vendredi à 21h. Dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer en envoyant euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Vos places pour France-Portugal se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
La consigne du jour, tout sauf le RN. C'est désormais la stratégie adoptée par l'Élysée et Emmanuel Macron à l'approche du deuxième tour des élections législatives, avec un objectif, Paul, empêcher Jordan Bardella d'accéder à Matignon.
Oui Rémi, ce matin on décomptait près de 190 désistements de candidats arrivés troisième derrière un candidat Ensemble ou Nouveau Front Populaire dans une circonscription où le RN arrivait en tête. Alors si du côté de la gauche et du Nouveau Front Populaire, la démarche est quasiment automatique dans toutes les circonscriptions concernées. Emmanuel Bompard l'a annoncé ce matin sur RMC. Ils sont déjà entre 40 et 50 insoumis à s'être désistés. Du côté de la majorité présidentielle, certains doutes subsistent. Alors, dimanche soir, pour rappel, Emmanuel Macron avait appelé un large rassemblement clairement démocrate et républicain contre le RN. Quelques minutes plus tard, Gabriel Attal appelait lui tous les candidats à se retirer, même au profit de candidats insoumis. Finalement, du côté d'Ensemble, c'est le cas par cas qui semble être privilégié. Une attitude bien évidemment dénoncée par le Rassemblement National. Hier soir, Jordan Bardella dénonçait une alliance un peu contre nature entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Une alliance surprenante, une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dénonçait des désistements comme un mépris des électeurs, affirmant aussi que cette élection est une émancipation du peuple. Alors combien de triangulaires subsisteront? Réponse ce soir à 18h.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable? Vous nous appelez au 32-16. Amélie.
Moi, ça me donne un peu le sentiment du pompier pyromane qui aurait plus d'eau et qui sait plus comment éteindre le feu. Je parle pas du fond, je parle vraiment de la forme. Soit, effectivement, le RN ne doit pas gouverner du feu qu'il a allumé lui-même, d'où le pompier pyromane. Donc, le pompier pyromane qui a plus d'eau. Donc, soit le RN ne doit pas gouverner et auquel cas, il faut se désister partout. Et en fait, il n'y a pas de cas par cas. La ligne, elle doit être claire. Et en fait, elle est pas si claire que ça parce que tout le monde ne la suit pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas été dit de manière aussi claire. Soit alors, il décide de redonner la parole au peuple. C'est comme ça qu'il a justifié la discussion. solution et auquel cas, bah, il y a des désistements nulle part. Et encore une fois, je parle pas du fond, je parle juste de la ligne et d'afficher clairement ce vers quoi on veut aller et ce qu'on pense. Et ça me semble pas être le cas aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommageable.
Comment tu expliques qu'en 10 semaines de temps, on soit passé du nini, hein, avant le premier tour, c'était ni RN. Ni LFI, aujourd'hui c'est ni RN.
Bah, tout simplement parce que je pense, je ne sais pas comment c'est possible, comment des stratèges politiques arrivent à ne pas anticiper les résultats d'élections, mais je pense qu'ils n'ont pas anticipé cette victoire relative, dirons-nous, du RN au premier tour des législatives.
Daniel Riolo, l'attitude aujourd'hui d'Emmanuel Macron est-elle irresponsable ?
En tout cas, il est responsable de tout. Il est responsable de ce marasme, il est responsable de cette France qui marche sur la tête, de cette désolation absolue, de l'indignité de tous ces politiques qui, en fait, depuis une semaine, ne parlent pas de programme politique, mais parlent simplement, comme si ça suffisait à faire un programme, d'être anti-RN. Donc c'est ça le dénominateur commun de gens qui se détestent, qui se sont tirés dessus pendant des années. Le spectacle le plus absolu de l'indignité étant sur les épaules d'un ancien président, parce qu'un ancien président, ça devrait avoir quand même une stature. Donc évidemment, je pense là à François Hollande, qui finalement fait alliance directe, indirecte, mais néanmoins, ça reste une alliance avec un fichier, lui qui a combattu, qui a été au gouvernement quand on a eu les attentats terroristes en France. François Hollande s'associe à un candidat ouvertement pro-Hamas. De loin, c'est pas dans la même circo, certes, mais tous ces gens-là sont en train de se combiner entre eux. Le spectacle depuis une semaine, c'est des arrangements, des combinaisons, mais où sont les convictions? Où sont les lignes directrices? Mais moi, je m'en fous de tous ces arrangements. Moi, je m'en fous. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un parti qui dit, ben moi, je suis sur cette ligne. Et si on va avoir 40 députés, eh ben, on va en avoir 40. Si on en a 60, on en a 60. Si on en a 10, on en a 10. Mais au moins, on est fidèle à des convictions. Et on va pas s'associer avec n'importe qui, au prétexte qu'il faut faire barrage au grand méchant loup. Parce que ça fait 20 ans, moi, que j'entends que le seul programme pour une tonne de politique dans ce pays, c'est le grand méchant loup. Sauf que le grand méchant loup, depuis 2002, il n'a cessé de progresser. Et il va probablement, à cause de tous ces arrangements et ces combines, accéder au pouvoir. Alors tous ces gens crient au loup, crient au loup, crient au loup. Bah, en Italie, ça n'a pas empêché Meloni d'accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle gouverne, ça passera. Peut-être qu'elle perdra le pouvoir, peut-être qu'elle continuera à l'avoir. Mais tous ces gens-là qui auront fait toutes ces combines et ces arrangements, avec quelle face ils vont revenir devant les Français plus tard? Mais qui? Et j'ai parlé des arrangements et des combines, là, de Hollande et de pas mal de personnalités à gauche. Mais à droite, parce que le premier, ça a été Ciotti quand même, qui a rompu avec la tradition de son parti, avec l'histoire de son parti. Mais on les compte sur les doigts d'une main, finalement, ceux qui sont restés dignes et fidèles. Parce que dans la foulée, il y a eu Glucksmann qui, alors lui, il a, mais alors il est. Mais c'est même pas dans le marigot qu'il a sombré.
Non, mais y compris la majorité présidentielle.
C'est dans la boue. Il ne reste finalement, très objectivement, il ne reste que Copé, Wauquiez et les LR qui étaient au gouvernement. Darmanin, le maire, qui assistent à ce spectacle. Et eux, je les trouve plutôt digne dans ce bal des horreurs.
Je veux juste rappeler que la majorité présidentielle a fait campagne quasi exclusivement contre LFI avant le premier tour, et maintenant ça devient une campagne contre le RN. C'est incompréhensible.
On a l'impression de... C'est une impression, mais on a l'impression d'avoir un joueur qui est en train de jouer et qui, à un moment donné, bah, il balance une carte et ça fonctionne pas, bah, il en cherche une autre, il en balance une autre.
Enfin, mais dans quel but, Rémi? En fait, quel est le Daniel, but de ça? Est-ce qu'on peut essayer de, Pierre, comprendre que s'il faut un but dans la vie quand
Pierre Rondeau.
C'est quoi? C'est de défendre un Marocain?
J'ai du mal à distinguer.
C'est un steak.
Cynique, à des fois être cynique et je voudrais pas jeter l'opprobre sur la vie politique française, mais je suis désolé, Daniel le rappelait, ça fait 20 ans, on pourrait même dire ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça, voire ça fait depuis la 5e République que ça fonctionne comme ça. C'est un jeu politique, c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de coalition, mais c'est un
Pierre,
jeu...
On peut ne pas accepter non, mais, ça,
Daniel, on a le droit d'avoir des convictions dans la vie. Non,
mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'espérer cette défense des convictions et une quête effrénée pour des valeurs, pour des desseins forts. Je te rejoins là-dessus, malheureusement, soyons très pragmatiques, donc peut-être très cynique, la vie politique française. parce qu'on a ce fonctionnement de la cinquième, parce qu'on a ce système qui t'oblige, après le premier tour, à soit te maintenir en triangulaire, soit laisser passer, soit te retirer au profit d'un camp qui était là, le total opposé de ce que tu étais. On a des LFI qui se retirent.
Mais tu peux pas, Pierre, aller vers des gens qui sont l'opposé de ce que tu es.
Désolé,
mais comment,
Daniel,
dans la vie, tu peux...
Daniel,
dans la vie, tu peux pas te comporter comme
ça. Tu as des convictions, tu as des valeurs, et
mais
c'est
tu te
tout
retires,
à ton honneur.
Pierre, si toi, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas compliqué. Au lieu d'aller t'associer, mais reste chez toi. Moi, honnêtement, si dans ma circo qui a été un bordel sans nom, dans ma circo, tu te retrouves avec trois LR, un ancien LR qui était passé chez Renaissance, mais au bout d'un moment, t'es pas content de l'offre.
Et avec certains qui mettent LR sur leurs affiches,
mais ne va pas t'associer avec le diable, reste chez toi.
Tout sauf le diable, si on le
tout sauf Bardella à Matignon.
Il est là où chacun veut le voir.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable? Vous pose la question et on va au 32-16 retrouver Mohamed. Bonjour Mohamed.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans le Val-de-Marne, c'est ça Mohamed?
C'est ça.
Bon, Emmanuel Macron est-il irresponsable?
Ah, il est responsable de A à Z. C'est-à-dire, je m'explique, moi, je suis électeur de gauche, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'il fasse ça, pourquoi pas. Mais limite, surtout qu'il se taise. Je m'explique, le type, il décide de dissoudre l'Assemblée. Personne ne lui a demandé de faire ça, il le fait. Très bien. Bah, tu prends cette décision, tu vas jusqu'au bout de ton truc. Mmh. Tu dis, je rends la parole au peuple. Donc, ferme ta gueule. Mais ferme-la, tout jamais. Vraiment. c'est-à-dire, à un moment donné, tu laisses les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà. Après, pour les désistements, pas désistements, etc., on connaît les règles de la 5e République et un petit peu la focuserie d'accord de ce système. Mais moi, je connais pas de système parfait dans ce bas monde. Donc voilà. Et c'est le système, il a l'image de l'humanité qu'on porte. Donc voilà, ça, c'est autre chose. Et après, chaque électeur vote en connaissance de cause. Mais moi, j'en ai marre qu'on dise que je me désiste, donc l'électeur, c'est un mouton, il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Non, l'électeur, il est libre, il a une conscience, il est capable de choisir ou de ne pas choisir. Voilà,
c'est intéressant ce que
merci pour ce que dit Mohamed.
C'est intéressant ce que dit Mohamed en plus, parce que c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière ici. C'était vendredi dernier parce qu'on savait que la participation serait importante et on avait posé la question, est-ce qu'il faut remercier Emmanuel Macron de donner la parole aux Français, puisque le soir du 9 juin, il dit je vous fais confiance, j'ai décidé de vous donner la parole et depuis ce moment-là, on ne cesse d'avoir des injonctions de part et d'autre.
Il y a plus de crédibilité à la parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Je parle vraiment depuis les européennes et depuis la dissolution. On ne cesse de rappeler ses erreurs d'anticipation. Effectivement, tu parlais des stratèges qui n'ont pas anticipé. Voilà, on peut se poser la question de la crédibilité. Alors, j'irai pas remettre en cause son intelligence, hein, loin de là. Mais aujourd'hui, sa parole est quelque peu galvaudée.
Merci à Mohamed d'avoir été avec nous. C'est court, mais vous êtes nombreux. Je vais donner la parole à un maximum d'entre vous. Mohamed qui nous appelait depuis le Val-de-Marne. Là, on va en retrouver Sam. Bonjour Sam.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sam, aujourd'hui c'est la nouvelle stratégie de l'Elysée depuis quelques heures, c'est tout sauf le RN. On anticipe peut-être un même plus qu'un barrage anti-RN, c'est un barrage Bardella, pas de Bardella à Matignon, on va essayer de faire comme ça. En tout cas c'est la stratégie de l'Elysée. Est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça irresponsable?
Non, tout. Moi, on dit tout à Bardella.
Ah, attention, on vous entend mal. Parlez bien devant votre téléphone,
oui, ça. Oui. Ouais. Je disais non. Alors Bardella, c'est juste parce que c'est lui la tête d'affiche. Hein. C'est pas tout contre Bardella, c'est tout contre le RN. Et non, c'est irresponsable. Au contraire. Et d'ailleurs, je vais dire, et aux électeurs, même aux personnes indécises qui nous écoutent, le RN, c'est un parti qui prône un certain respect des droits, hein, de l'ordre et de tout cela. Bon, ça reste le seul parti en France qui aujourd'hui est jugé extrême par le Conseil d'État.
C'est-à-dire
les règlements françaises, les juges français, les décideurs. Regardez, et je n'ai pas LFI dans mon cœur personnellement, néanmoins, ils disent l'extrême gauche, non, il n'y a qu'un seul extrême en France, et c'est l'extrême droite. Donc quand un parti
dans la coalition Nouveau Front Populaire, il y a quand même le NPA aussi.
Le NPA est quand même considéré extrême gauche, pas LFI par le Conseil d'État, mais d'accord. Le NPA si.
Ok.
Et c'est quoi cette histoire
Attends, Daniel, on laisse parler Sam.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On laisse
parler l'État qui dit qui est qui, mais dans quel pays on est, ça aussi?
Sam,
mais ça aussi, c'est grotesque ça.
Alors Daniel, tu n'entends pas bien. Là, je donne la parole à Sam. Excuse-moi.
Non, mais c'est, voilà, pour moi, le propos, il est là. Le propos, il est qu'il y a des baromètres, il y a des règles, il y a des curseurs qui permettent de déterminer si un parti est un parti qui est extrême ou pas. Ce que prône l'extrême droite, ce que prône le Rassemblement National, le Front National, depuis sa fondation, de toute son histoire, je sais bien que les médias, vous avez détraumatisé ça depuis des années,
Oui,
maintenant,
bah,
c'est sympa de les avoir à l'antenne. Néanmoins, ça reste un parti qui prend ce qu'il prend. Et d'ailleurs, on voit,
en même temps,
ce que disent leurs nouveaux candidats.
Ouais. Hein, Sam, on discute tranquillement. On discute tranquillement, Sam, mais ce qui est bien, c'est aussi que quand on entend des responsables du RN, ils nous accusent de les avoir diabolisés pendant des
années. Excuse-moi, Sam, mais il faut quand même noter quelque chose. La France n'est pas le seul pays en Europe où les idées du Rassemblement National sont en augmentation. J'entendais, déjà, ça, premier point, il faut le noter, avant de pleurer sur cette augmentation. Il y avait un député Renaissance sur BFM qui, la semaine dernière, arrive, se pose et dit... De toute façon, il faut dire que le constat sur des problèmes qui préoccupent des Français posés par le RN sont réels. Mmh. Ok ? Et donc, ça fait depuis 2002 cette histoire-là, même avant, hein, mais 2002, comme il y a eu le deuxième tour, c'est une date un petit peu symbolique. Mmh. Et donc, quelles ont été les réponses derrière ? Ça a été Sarkozy qui, comme seule réponse, lui qui a réussi à faire redescendre le RN à 8%, la seule réponse à la sécurité, à ces problèmes-là, c'est le Karcher et casse-toi pauvre con. Ça a été ça les réponses d'Hollande ensuite, les réponses de tous les gouvernements.
On n'en serait pas
là. Et d'apporter les réponses aux préoccupations des Français, on ne fait que diaboliser.
On est d'accord.
Mais c'est pas une politique, ça.
Daniel, on est d'accord.
C'est pas un programme, ça.
Daniel, on est d'accord. Heureusement que t'es fatigué, sinon c'est moi qui le serais. On est d'accord. Et ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais on n'en serait pas dans cette situation actuelle de crise quand même politique s'il y avait eu des réponses d'apporter.
Évidemment.
D'accord. Sam, merci d'avoir été avec nous au 32-16. Arnaud Benedetti nous rejoint. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ?» point d'interrogation, paru aux éditions Michel Lafon. Arnaud Benedetti, ce n'est pas une vue de l'esprit, je ne pense pas avoir rêvé. Il y a 10 jours, le chef de l'État prônait le « ni LFI, ni RN » pour le premier tour. Désormais, c'est pas de RN tout court. À quoi joue Emmanuel Macron ?
Bah écoutez, il essaye tout simplement d'éviter, et on voit quelle est la stratégie derrière, l'accès de Jordan Bardella à Matignon. Alors la difficulté de sa stratégie, elle est double d'abord. Ce sont bien évidemment les contradictions que vous venez de pointer, parce que, si vous voulez, on ne peut pas dédiaboliser... on ne peut pas dédiaboliser un adversaire un jour...
Diaboliser LFI la semaine dernière et aujourd'hui.
Et le rediaboliser aujourd'hui. Donc il y a un problème de cohérence qui se pose manifestement et qui peut en effet parfois poser des problèmes aux électrices et aux électeurs. Ça c'est le premier point. Mais en fait, quel est l'objectif ? L'objectif c'est surtout pas tant de contenir la poussée du Rassemblement National, quoi, que c'est ça l'objectif. C'est surtout peut-être d'empêcher la possibilité de former un gouvernement.
Donc d'empêcher le RN d'avoir la majorité absolue.
Exactement, parce que le vrai sujet, c'est que aujourd'hui l'objectif il est d'une certaine manière assez peu ambitieux du côté du président de la République au regard de l'épreuve électorale à laquelle il est confronté. Il sait très bien que de toute façon il y aura à nouveau une poussée du Rassemblement National en nombre de députés au second tour. Toute la question est en effet de le cantonner à une majorité relative. Et on sait depuis plusieurs semaines maintenant que le Rassemblement National a annoncé que dans le cadre d'une majorité relative, il pourrait très bien ne pas vouloir accéder à Matignon. Après, la question est de savoir quel est l'étiage de cette majorité relative.
Arnaud, ils en reviennent un petit peu. Hein, encore hier, Sébastien Chenu a dit même si on a une majorité relative, on pourra essayer de trouver peut-être des alliances. Ouais. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dit oui. Bon,
C'est l'étiage de cette majorité relative. Si vous êtes à 250, c'est pas la même chose.
Évidemment,
que 190. Vous êtes à 270 ou 275, où vous allez peut-être aller rechercher des alliés potentiels, notamment chez les LR qui ont décidé de ne pas suivre Monsieur Ciotti. Donc ça, c'est une possibilité. Le problème, c'est que le risque d'Emmanuel Macron, c'est in fine de se trouver avec un pays ingouvernable.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, Arnaud Benedetti. Si le RN n'a pas suffisamment d'élus et qu'il n'accepte pas de former un gouvernement, il se passe quoi ?
Ah ben vous savez, c'est extrêmement difficile. Il peut très bien ne pas y avoir de majorité du tout à l'issue du soir du second tour, ce qui serait une situation totalement, en effet, exceptionnelle sous la Ve République, puisque la Ve République a été bâtie pour produire justement des majorités qui permettent de gouverner dans la durée et dans la stabilité. Là, en l'occurrence, on se trouverait dans une situation institutionnelle qui n'a pas été de fait prévue par les institutions de la Ve République. Alors, on parle de gouvernement technique. Mais un gouvernement technique, si vous voulez, un gouvernement technique, de toute façon, il sera quand même soumis à un moment donné à l'approbation du Parlement, ne serait-ce que pour faire voter le projet de loi de finances. Quand vous n'avez pas de majorité, c'est extrêmement difficile, que vous le vouliez ou non, de faire passer un projet de loi de finances. Donc on voit qu'aujourd'hui, la stratégie d'Emmanuel Macron est une stratégie très risquée. Elle est doublement risquée. D'abord, l'alliance avec LFI peut, en effet, enfin l'alliance qui n'est pas une alliance, les désistements en tout cas avec LFI, peuvent d'une certaine manière troubler une partie d'abord de l'électorat notamment macroniste qui n'a pas du tout envie d'aller forcément faire barrage au Rassemblement National en votant pour un candidat de LFI, en tout cas un candidat de LFI, voire un candidat du Front Populaire, ça c'est une chose. On peut avoir une déperdition importante de voix au deuxième tour. Et puis l'autre problème, c'est que quand finalement vous faites de l'ingouvernabilité l'obstacle à l'accession du Rassemblement National au pouvoir, ben vous prenez le risque tout simplement de se faire dysfonctionner les institutions d'un
cinquième. Une dernière question, Arnaud Bédé, si on est pris par le temps, mais une dernière question. Je ne sais pas si c'était, certains ont émis l'hypothèse, je ne sais pas si c'était le but d'Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Certains ont dit c'est le chaos, c'est la théorie du chaos. Mais je ne sais pas si c'était son idée à l'origine, mais est-ce qu'on peut y arriver ?
Bon, on n'en est plus très loin. On n'en est plus très loin, en l'occurrence, vu l'état de tension du débat politique et vu l'issue très, très incertaine des urnes. Il est évident que si encore une fois, au soir du 7 juillet, on n'est pas capable de disposer d'une majorité, ou en tout cas dans la semaine du 7 juillet, il aura rajouté la crise institutionnelle à la crise politique. Et il en sera, bien évidemment, le principal responsable. Donc, on est vraiment dans une situation qui est, encore une fois, tout à fait unique sous la Ve République. Après, reste à savoir s'il peut y avoir une majorité relative. Ça sera, là aussi, quelque part, le résultat de dimanche qui nous le dira.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire » aux éditions Michel Lafon. On vous a posé la question, tout sauf Jordan Bardella à Matignon, Emmanuel Macron est-il irresponsable, Paul ?
Eh bien, c'est un oui massif, 84% de nos auditeurs jugent le président responsable.
Bon, allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire à l'Assemblée nationale ? Vous nous appelez au 32-16, c'est dans un instant.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
La suite d'Estelle midi, 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Tout de suite, on parle des dérapages du jour, dérapages de candidats aux législatives. Paul, certains profils, certaines déclarations font beaucoup parler.
Oui, la question d'une surbordélisation de la nouvelle Assemblée nationale se pose à 5 jours du second tour. Alors, c'est principalement du côté des deux extrêmes qu'on a ce genre de dérapage. On va commencer par le RN. Plusieurs polémiques ont éclaté ces derniers jours. On apprenait hier qu'un candidat sous curatelle avait passé le premier tour, Thierry Mosca, dans la deuxième circonscription du Jura. Problème, un candidat sous curatelle est de fait inéligible.
Et parce qu'on peut le dire, enfin, il a été reconnu par la justice comme déficient mental.
Exactement. Hier, sur les réseaux sociaux, Paul Verde-Sauras, candidate en Mayenne, qualifié pour le second tour, se défendait face caméra de toute forme de racisme et d'antisémitisme, affirmant avoir un dentiste musulman et un ophtalmo juif. Enfin, ce matin, Ludivine Daoudi, candidate du Rassemblement National dans la première circonscription du Calvados, s'est retirée, malgré elle aussi sa qualification pour le second tour, après la diffusion d'un cliché d'elle avec une casquette nazie. Mais c'est la même chose du côté de la France Insoumise, qualifiée pour le second tour dans la première circonscription du Vaucluse, Raphaël Arnaud, candidat investi par le parti de Jean-Luc Mélenchon, est fiché S pour violence en réunion et apologie du terrorisme. Juste avant le premier tour, Sébastien Delogu, déjà vainqueur, directement vainqueur au premier tour dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, avait publié une vidéo antisémite mettant en scène notamment le député Meyer Habib. Enfin, dans le Val-de-Marne, dernier exemple qu'on a décidé de retenir ce matin, le candidat Louis Boyard est accusé d'avoir perturbé la quiétude d'un bureau de vote, déclamant des propos antiracistes avec plusieurs de ses camarades, lui se défendant de protester contre des propos racistes tenus par certains assesseurs.
Candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire pour la future Assemblée nationale ? Vous nous appelez au 32-16. Daniel, parfois, lors de la dernière mandature, on a assisté à des scènes qui nous disaient vraiment, là, on a touché le fond. Mais peut-être pas.
Oui, exactement. Ouais. Je pense qu'on est capable de creuser encore un petit peu. Et là, ce qui s'annonce, oui, c'est le train fantôme, quoi. Et encore, le train fantôme, des fois, on rigole dedans. Là, c'est terrible, oui. Il y a les personnages que vient de présenter Paul à l'instant. Mais encore une fois, hein, moi, on est à 4 jours du vote. Enfin, allez lire les programmes et réfléchissez bien avec qui vous allez vous associer, quoi. Moi, les gens qui disent, ah, mais non, mais c'est pas antisémite parce qu'il y a qu'à les dénoncer, et puis on verra s'ils sont condamnés par la loi. Moi, je suis désolé, quand je vois ça, il n'y a pas de doute dans mon esprit, quoi. Voilà, à un moment, il faut juste se regarder dans une glace, il faut savoir où on met les pieds, il faut savoir avec qui on va envoyer à l'Assemblée, à côté de qui on va s'asseoir. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'à un moment, là, je ne sais pas jusqu'où on est capable de creuser. Mais là, on va mettre des gens à l'Assemblée.
Enfin, il n'y aura pas que ça.
Pardon d'avoir une idée de ce que devait être ce pays. Je sais pas. Je suis totalement désorienté, déboussolé, très très peiné par ce qui est en train de se passer et par ce qui peut sortir dimanche soir des urnes. On est là à se battre. Ah, mais non, lui, il est pas extrême. Il a pas été signalé comme tel par le Conseil d'État. Ah, mais lui, il est extrême. Et puis l'autre, c'est un goliot. Et puis l'autre, c'est un antisémite. Enfin, moi, ça me donne l'impression quand même d'une tripotée de débiles. Dans les deux camps là, des deux côtés, et on y va là, et allègrement on y va là, et des anciens présidents vont aller se jeter dans les bras de ces gens-là. Moi je suis, mais
il y a quand même, je rejoins ce que dit Daniel,
étourdi parce que
dans le fond, je rejoins ce que dit Daniel. C'est vrai qu'on pourrait avoir dimanche dès lundi une assemblée avec une tripotée, je te cite, de débiles. À majorité, je ne pense pas, mais malgré tout, ça reste le jeu de la démocratie, et j'aurais tendance plutôt à condamner ou en tout cas à critiquer des gens qui vont aller aveuglément voter pour tel ou tel parti.
C'est pour ça que j'ai dit, allez lire les programmes. Exactement. Quand même, et renseignez-vous, vous vite. Vous avez encore 4 jours
quand
pour le faire.
Des gens qui vont dire, je ne suis pas raciste parce que mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman. Je suis désolé. Au bout d'un moment, n'allez pas voter bêtement.
Dis également l'autre côté, la démocratie, je m'en fous parce que je rentre dans un commissariat, je suis prêt à tout casser. Il faut signaler les deux camps, Pierre. Parce que c'est ça qui est très grave. Laisse-moi finir.
Attends. Oui, tu as raison.
Si tu lui dis pas, il le fait pas.
Aux personnes qui vont aller voter, n'allez pas voter bêtement, entre guillemets, pour un camp, un parti politique, mais allez voir directement les personnes. Je rappelle que c'est pas une élection législative.
Et les programmes,
c'est
les programmes.
30 élections locales.
Voilà. Exactement. Local, et des candidats.
Directement voter dans sa circonscription.
Et des candidats locaux.
Des candidats de sa circonscription avec des candidats locaux. Il y a un programme commun, c'est vrai, mais concrètement, ce sont des gens qui vont représenter la circonscription. Allez voir directement qui va vous représenter pendant 5 ans.
D'où ils viennent. Enfin, c'est quand même tout l'intérêt de ces élections-là qui sont des élections locales. Et effectivement, au-delà des programmes, Daniel, tu parles des programmes, tu as raison, sauf qu'on sait très bien aussi que ces programmes, ils ont été faits en 20 jours. Ouais. Et en franchement, il y a quand même 2 jours, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Mais au-delà des programmes, juste la personne pour laquelle on va voter. Ok, il y a des alliances, mais je veux dire, moi je sais quelles sont les candidates dans ma circonscription et je vote en fonction de ça. Ça me paraît un peu logique. Maintenant, sur ta question de est-ce que l'Assemblée nationale sera honteuse, enfin, en tout cas, sincèrement, et je te rejoins, Daniel, les bras m'en tombent. Enfin, franchement, on est atterré. Et oui, effectivement, sur la question d'un fichier S qui arrive à être candidat, ça me paraît complètement délirant.
Cette dame qui dit j'ai un
ophtalmon qui est juif. Enfin, pardon, mais ça me rappelle le sketch de Muriel Robin, 1980, je l'ai noté.
Une personne qui met une casquette nazie, un pro-Hamas, 1988,
Muriel Robin, quasiment mon âge, qui faisait le sketch Le Noir, parce que sa fille annonçait noir-noir ou noir un peu blanc. Enfin, pardon, c'était en 1988. Enfin, sincèrement, je suis. J'essaye de pas être triste, je suis juste atterrée, ça donne envie de sourire, sauf qu'en fait, c'est pas drôle.
Candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire pour la future Assemblée nationale? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Rémi, bonjour à tout le monde.
Merci.
Je suis contente que la dame qui travaille avec Estelle là est chroniqueuse et c'est très bien.
Amélie Rosic.
Mais je vous remercie.
Absolument, oui.
Merci madame.
Elle est bien la dame.
Elle est très très bien.
Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup.
Et c'est bien de le dire.
On est
en Charente-Maritime, Laurent, c'est ça?
Oui.
Bon, est-ce que vous craignez le pire pour la future Assemblée?
Ah bah, que ce soit on n'a pas le droit de dire les noms, mais que ce soit...
À gauche ou à droite? Très à gauche ou très à droite?
Que ce soit la droite ou la gauche, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, et il ne faut pas oublier, et les gens n'en parlent pas beaucoup, ça va être le bordel dans la rue. Moi, j'ai croisé tout à l'heure un magasin, des jeunes qui sont majeurs, et qui ils parlaient entre eux, ils disaient de toute façon, que ça soit surtout la droite, l'extrême droite, ça va être le bordel, on va sortir nos armes. Ça va très très loin. Moi je m'attends au pire.
Donc ça,
moi,
c'est un comportement, Laurent, qui n'est même pas démocrate. Ça veut dire qu'on est prêt, il y a des gens qui sont prêts à ne pas respecter le résultat du vote.
Attention, c'est deux jeunes entendus dans un magasin. Mais Laurent, on entend, voilà, il y a cette crainte, oui. Bon. Laurent.
Oui.
Laurent, ce qui m'interroge aussi, c'est que, encore une fois, on revient à la source, j'allais dire, le 9 juin au soir, lorsque Emmanuel Macron prend la parole, l'une des justifications pour dissoudre l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, c'est le bazar à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai. Il dit, bon, aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale où ça se passe mal, où c'est un peu le, il a pas prononcé le mot, mais il y a un peu le bordel, voilà, pour parler un peu vulgairement. Mais c'est ce qu'il entendait. Et donc, on va essayer de remettre un peu d'ordre.
Il a des conseillers très intelligents qui sont surdiplômés.
Là, Laurent, on a l'impression que c'est tout l'inverse qui risque d'arriver, non?
Bah oui, parce que moi dimanche, c'est la première fois que j'ai entendu mon père pleurer au téléphone.
Ah bah, racontez-nous, il a quel âge votre papa ?
Mon papa, il est de 43.
D'accord, ok.
Depuis tout petit, mes sœurs et moi, depuis tout petit, on pliait les tracts en 1981.
Donc il était engagé politiquement ?
Il était engagé politiquement, oui. Avec le poing et la rose. Voilà.
Non, il y avait socialiste, on peut le dire ça.
Il a juste mis deux ans à être trahi par Mitterrand.
Attends, Daniel. Et votre papa, il a pleuré dimanche. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Oui. Bah, il m'a dit, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Et moi, parce que moi, je pense à moi. Quand j'ai voté dimanche, j'ai pensé à mes grands-parents, à tous ces gens qui sont même morts pour qu'on ait le droit. Je suis désolé, mais voilà. Ça fait très peur. J'ai 52 ans, ça me fait très peur.
Qu'est-ce qui vous fait peur ?
S'ils arrivent, ça va tout... Voilà, perdre tous nos droits que les gens se sont battus pour...
Oh là là. Attends, stop là, Daniel. Allez-y, non.
Tous les droits... Ils vont tout nous enlever, de toute façon. S'ils arrivent, ils sont en train de montrer leur vrai visage, maintenant. Ils se prennent déjà au gouvernement. Et là, ils sont en train de se battre, qui va être Premier ministre, que j'en ai à foutre, moi qui vais être Premier ministre, excusez-moi de parler comme ça, mais moi, ça me fait très très peur, j'ai des enfants, ça me fait peur.
Laurent, au-delà de l'étiquette politique, de la couleur politique, que ce soit très à droite ou très à gauche, peu importe, est-ce que vous avez l'impression qu'on a perdu notre politique ?
Ah oui, on a complètement perdu, on a tout perdu. Ils mettent des gens là qui connaissent rien à la politique, je parle de... que ce soit de la droite ou de la gauche, même d'autres qui connaissent rien à la politique, qui montent des drapeaux. Alors, il n'y a que le drapeau français qui doit être dans l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ces gens. Ils n'ont vraiment pas honte.
Ça, c'est vrai.
Ils n'ont pas honte. Ils nous donnent des leçons. C'est fini. Le pire va arriver dimanche. Et moi, ça me fait très peur. Je suis désolé d'être comme ça, mais ça me fait très, très peur.
Mais vous n'avez pas été désolé d'être comme ça, non.
Et qu'il va aller faire un tour pendant une journée à Oradour-sur-Glane, ils vont comprendre ce que c'est.
Laurent, vous n'avez pas avoir honte d'être comme ça, enfin, vraiment pas, parce que moi, je pense, et ça, c'est mon avis personnel, il y a une très forte participation dimanche dernier aux élections. Mais je pense qu'il y a une majorité silencieuse en France qui vote d'un côté ou d'autre, peu importe, mais qui se désespère du spectacle auquel on assiste à l'heure actuelle, Laurent. Comme votre papa le fait ?
Oui, mais je vous le dis, moi-même, ma sainte, c'est toujours été la gauche. Ça a toujours été la gauche. La Rochelle, où je suis né, c'est à gauche. Ils sont tous passés à l'extrême. Tous.
Et Laurent, s'il te plaît, Daniel, attends un instant. Et Laurent, parce que je veux continuer juste un instant le dialogue avec Laurent. Vous savez, moi, j'ai mon père qui est de 37, Laurent. Qui est gaulliste, qui a toujours été gaulliste. Et qui est dans le même état que votre papa, hein.
Oui. Oui, moi, je pense que, voilà, les gens qui sont battus pour nous, qui sont plus là pour parler, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent avoir honte d'avoir aidé ce pays, ce magnifique pays, que les deux sont en train de nous détruire. Et qui c'est qui nous a mis là-dedans ? C'est Macron. Voilà, il est très fier de lui, il peut se balader avec sa casquette et son blouson. Moi, c'est fini, j'ai cru en lui en 2017, j'ai cru en lui en 2022, c'est terminé.
Merci Laurent d'avoir été avec nous, c'était très important de vous entendre. Merci à Laurent. Vous, Laurent qui nous appelait depuis la Charente-Maritime. Il y a le désespoir, hein. Amélie.
Ouais, et la responsabilité, en fait, de, enfin, j'ai presque envie de dire de tous les dirigeants politiques depuis 2022, depuis 2002. J'ai la sensation qu'en 20 jours, on assiste à ce à quoi on a assisté en 22 ans, c'est-à-dire depuis 2002. Ils savent que le meilleur moyen d'être élu au second tour, et je parle de la présidentielle évidemment, là, on est dans le cadre des législatives, c'est de faire monter artificiellement ou pas, mais en tout cas de faire en sorte que le FN, nouvellement RN aujourd'hui, puisse accéder à un deuxième tour, parce que comme ça on est sûr de gagner. Et ben en fait ils ont été pris à leur propre jeu, voilà, et aujourd'hui c'est terminé.
Politique minable plutôt que de défendre des programmes.
Voilà,
des
ça fait 22 ans et la stratégie, et bah
plutôt
voilà.
Que de regarder en face les vraies préoccupations des Français et de renvoyer pendant 20 ans tous les gens qui se posaient des vraies questions sur l'état de notre société. Vous êtes des fachos, vous êtes des fachos, vous êtes que des fachos, vous êtes que des fachos, sans arrêt entendre ça. Bah à l'arrivée, bah voilà.
On vous a posé la question, candidat sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire amis, à l'Assemblée nationale? Daniel, Pierre, vous continuerez le dialogue après, vous me laissez faire ce que j'ai à faire. Candidat au sous curatelle, dérapage en série, faut-il s'attendre au pire à l'Assemblée nationale?
Eh bien, nos auditeurs sont inquiets pour 84% d'entre eux, ils répondent oui.
Bah, Laurent se sentira moins seul, en tout cas. Allez, dans un instant, avant ça, on joue pas.
Oui, tu as reconnu cette alerte, Rémi, c'est le moment pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC. Aller à Hambourg vendredi pour assister au quart de finale France-Portugal. Pour ça, une seule solution, vous envoyez tout de suite euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Désengorger les urgences de nos hôpitaux, grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout de suite. Bon, Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 14h,
Estelle Midi.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours, midi 14h aujourd'hui sur RMC et RMC Story. Et Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut Rémi, salut à tous.
C'est un sujet épineux, grave, parce que on le sait, nos urgences sont au bord de l'asphyxie en France, saturées. Et il y a peut-être un moyen de les désengorger, en tout cas d'aider à désengorger ces urgences grâce à la technologie.
Grâce à la technologie, exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des outils qui existent déjà, qui commencent à être déployés dans certains hôpitaux. Il ne s'agit évidemment pas de dire que la solution, elle est toute technologique. Hein. On a besoin d'effectifs.
Tu vas pas être accueilli par un robot qui va dire non, ça c'est grave, ça c'est pas grave.
Clairement. Ah, tu vas voir qu'on y est presque quand même. Mais en tout cas, il y aura toujours de l'humain, évidemment. Cela dit, pour fluidifier le trafic, pour aider les soignants, leur faire gagner du temps, on a des outils extraordinaires qui sont en train d'arriver. Je t'en présente trois qui sont français en plus. Le premier s'appelle Calypse. Il est utilisé notamment à l'hôpital de Valenciennes. Et c'est un outil qui permet d'anticiper et même de deviner, j'allais dire quasiment au patient près, combien de patients vont arriver dans la journée et même dans l'heure qui vient à l'hôpital.
C'est des stats ?
Alors c'est des stats, c'est plus que des stats, on va utiliser de l'intelligence artificielle, donc c'est de l'analyse statistique, ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. En gros, on va prendre toutes les données des années passées sur l'hôpital, tu vois, donc on dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle heure, etc. On va coupler ça avec des données contextuelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? S'il y a du verglas,
la météo, c'est ce que j'allais dire, c'est ça, je pense au verglas.
La météo, tu prends ça en compte, mais ça peut être aussi des manifestations. S'il y a un gros match de foot, s'il y a une manif, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, plein de paramètres. Mmh. Et à partir de ça, on va te faire une projection. Alors, quand je disais au patient près, j'exagère un peu, évidemment, c'est pas de la magie, mais avec un taux de précision à 90%, on arrive à te dire combien de personnes vont arriver. Et quel type de problème ils risquent d'avoir? Encore une fois, c'est des prédictions, c'est des statistiques. Et donc, ça permet d'optimiser les effectifs, de mettre les bons effectifs au bon endroit, au bon moment. Les lits aussi, on va pouvoir déterminer à quel moment ils vont rentrer, à quel moment les patients vont sortir. Et donc, tout ça, ça permet un gain de temps, de place et une optimisation des ressources, tout simplement.
Bon, ça, c'est pour l'accueil des patients. Ouais. Mais une fois qu'ils sont là, le problème, c'est qu'on manque de bras aussi pour les prendre en charge. Alors, ils sont aux urgences.
Alors, ça, c'est vrai. Et alors, surtout, la nuit, le soir. En plus, les médecins sont débordés. C'est compliqué. Là aussi, il y a des outils extraordinaires qui sont en train d'arriver. Je t'en donne un. Il s'appelle Bone View. Donc, c'est la vision des os, hein, littéralement. C'est un outil français aussi pour l'analyse des fractures. Fractures, c'est un des trucs les plus courants quand tu arrives aux urgences. Et c'est l'un des éléments d'ailleurs où il y a le plus d'erreurs de diagnostic. Parce que tu arrives, en gros, tu t'es fait mal, t'es tombé, on te fait une radio et le médecin, c'est pas forcément le médecin qui a été formé pour ça, qui va avoir le temps d'analyser la radio. Et donc là, en gros, c'est une intelligence artificielle qui va analyser la radio, qui va mettre moins de temps qu'un médecin humain pour le faire et qui va faire moins d'erreurs sur les tests qui ont été réalisés. elle réduit le taux de fracture non détectée de 29%. Or, les erreurs d'interprétation sont très fréquentes avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce que si on ne te diagnostique pas la fracture derrière, t'imagines les complications. Donc là aussi, il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer les médecins. Évidemment pas. Mais ça leur permet de gagner du temps, d'avoir une sorte de deuxième avis s'ils ne sont pas trop sûrs. Et puis, ça permet aussi de gagner du temps aux patients. Parce que si l'IA te dit, bon, bah, en fait, il n'y a rien, vous pouvez rentrer à la maison, monsieur. Bah, là aussi, en fait, tu repars et tu n'as pas besoin d'attendre pendant des heures, quoi.
Et puis, un autre enjeu, ce sont les appels d'urgence, et là aussi l'IA pourrait aider.
Oui, parce que les appels d'urgence, quand tu y réfléchis bien, ils n'ont pas tellement évolué, y compris ces dernières décennies. Tu appelles avec ton téléphone, t'es pris en charge par un opérateur, tu lui dis ton problème, et puis bah il y a des gens qui viennent s'il y a un souci. En fait, aujourd'hui, on a tous dans la poche des téléphones augmentés, des smartphones en fait, avec une caméra, avec un appareil photo. Et donc là, en gros, avec cette application qui s'appelle iWind, eh bien quand tu appelles les urgences, l'appareil photo et la caméra du téléphone va s'enclencher et va analyser tout ce qui se passe autour de toi. Donc en fait, ça va faire une sorte de pré-diagnostic. Elle va voir déjà avec la caméra frontale si toi t'es ensanglanté, si t'es blessé, si t'as l'air stressé, si t'es pas bien. Autour de toi, s'il y a un accident de voiture, un accident de vélo, est-ce qu'il y a des victimes, est-ce qu'il y a des gens. Et tous ces éléments-là vont être envoyés en fait aux secouristes avant même, aux urgentistes, avant qu'ils n'arrivent sur la scène. Et donc du coup, bah ils ont en fait tous les éléments pour, bah si tu veux, pour optimiser leur intervention quand ils arrivent. En gros, il y a une partie du boulot qui est quasiment déjà faite, quoi. Si tu veux, c'est un gain de temps dans ce qu'on appelle l'heure d'or. L'heure d'or, c'est la fameuse heure qui suit l'heure où tu as un problème, un accident, qui est celle où en fait tes chances de survie sont les plus menacées. C'est là qu'il faut intervenir en urgence, chaque seconde compte. Et donc là, ça va permettre, bah là encore, de gagner quelques précieuses secondes ou minutes. Et donc bah c'est pas négligeable pour les patients.
Chaque seconde compte, tu viens de le dire. Regarde là-bas, c'est écrit, c'est fini.
Ouais, à la seconde près aussi, t'as vu.
T'as vu, formidable.
Franchement.
Mais on se retrouve demain. Demain, tu parleras de quoi?
Demain, je parlerai de quoi? C'est une bonne question, je sais plus maintenant.
C'est pas grave.
Non, c'est quoi la surprise?
C'est pas grave, parce que je sais que ça sera de qualité quand même.
Oh, mais c'est gentil.
On n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel, que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application RMC, et bien sûr, sur toutes nos plateformes d'écoute. Dans un instant, tiens, tu prends le train?
Souvent, oui.
Bon, t'es jamais en retard?
Bon. C'est une blague?
C'est pas très cher.
Oui, non, bah, c'est presque gratuit.
Oui, et puis il n'y a jamais de grève.
Et il n'y a jamais de grève.
Bon, prix, retard, grève, la SNCF vous fait-elle, pardon, j'y ai arrivé, détester le train? C'est notre question. Vous nous appelez au 3216, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 14h, Estelle Midi.